Visage d'église. Visage d'église, une émission présentée par Pascal Bahut sur Radio Présence dans le Lot. Visage d'église. Visage d'église, une émission présentée par Pascal Bahut sur Radio Présence dans le Lot.
Chers amis, bonsoir. Nous poursuivons avec le père Guillaume Souris-Lavergne, curé de la mission catholique de Figeac, ce parcours sur l'Esprit Saint. Donc, que nous avons débuté récemment, donc c'est notre deuxième temps de rencontre, mais peut-être pour l'aborder, nous pourrions commencer par partager avec vous une prière.
Tout à fait, cher Pascal, puisque j'ai promis à tous les auditeurs que nous allions prier pour eux, pour qu'ils soient touchés, qu'ils écoutent religieusement cette émission ou que ce soit un peu en passant, dans leur voiture par exemple, voilà, que vraiment l'Esprit Saint puisse saisir le cœur de chacun et lui donner le désir d'être toujours plus conforme à ce que Dieu veut. Je vais prendre une prière de manière habituelle, qui est une prière dans la tradition catholique, qu'on appelle le Veni Creator, qui est une prière magnifique et qui est très, très puissante pour demander à l'Esprit Saint, voilà, de lui laisser toute la place dans notre vie. Viens en nous, Esprit Créateur, visite les âmes des tiens. Emplis de la grâce d'en haut les cœurs qui sont tes créatures. Toi qu'on appelle conseiller, don du Seigneur de majesté, source vive, feu, charité, toi qui es onction spirituelle, toi le donateur aux sept dons, puissance de la main de Dieu, toi que le Père avait promis, qui fait jaillir notre louange, mets ta lumière en nos esprits. Répands ton amour en nos cœurs. Et que ta force sans déclin tire nos corps de leur faiblesse. Repousse l'adversaire au loin. Sans tarder, donne-nous la paix. Ouvre devant nous le chemin, que nous évitions toute faute. Fais-nous connaître Dieu le Père, fais-nous apprendre aussi le Fils, et croire en tout temps que tu es l'unique esprit de l'un et de l'autre. Amen. Voilà, Esprit Saint, viens dans notre vie.
Donc pour débuter cette seconde rencontre, peut-être vous pourriez nous redonner les objectifs en quelques mots de ce parcours.
Eh bien, cher Pascal et chers auditeurs, j'ai un objectif prioritaire, c'est de vous conduire, alors si Dieu le veut, hein, mais de vous conduire à faire une expérience. Voilà, que vous ayez l'audace tous de faire l'expérience de l'Esprit Saint, de demander à l'Esprit Saint d'agir puissamment dans votre vie. Parce que l'Esprit Saint, c'est lui qui fait tout, en fait. C'est lui qui nous donne même le désir de prier. C'est l'Écriture qui nous l'apprend. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui évangéliser ? Eh ben, c'est pas transmettre une information, c'est pas une somme de connaissances, hein, sinon il suffirait de lire le catéchisme et ça y est, c'est bon, on a la foi. L'évangélisation, ça consiste à permettre à quelqu'un de rencontrer personnellement Jésus. Et celui qui nous permet de rencontrer personnellement Jésus, celui qui rend présent Jésus, comme à la messe par exemple, eh bien, c'est l'Esprit Saint. Voilà, donc j'aimerais vraiment, enfin c'est la prière que je demande, c'est la prière que je formule devant le Seigneur, que chacun qui écoutait eh bien, ce parcours, eh bien, vous puissiez vraiment faire l'expérience de Dieu. Jésus a dit à un moment, en l'évangile selon Saint Luc, au chapitre 11, « Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Alors, je crois que j'aurai atteint mon objectif si vous qui écoutez, eh bien, vous finissez par vous-même demander l'Esprit Saint. Alors, je vais vous donner une petite anecdote parce que ça, c'était il y a quelques années. Il faut s'imaginer un parterre de prêtres plutôt classique. Le cardinal Sarah nous entretenait, alors je ne sais plus exactement à quelle occasion. Enfin, c'était le cardinal Sarah. Et il y a un prêtre qui pose une question, un peu sous le mode de la polémique. Et sa question, alors je ne sais plus exactement quelle elle était, mais grosso modo, il était en train de dire « Bon, écoutez, éminence, vous comprenez, de plus en plus, il y a des gens qui laissent dans l'Église, qui cèdent au fait de faire témoigner des gens, un peu comme chez les protestants. Est-ce que vous ne pensez pas que maintenant, il faudrait mettre le holà à tout ça, que voilà, cette histoire de faire témoigner des gens, bon, ce n'est pas ça l'Église ?» Alors, il faut s'imaginer la scène, hein. C'est vraiment, vous avez des prêtres relativement classiques, etc. Donc on est persuadé que le cardinal Sarah va dire, bah oui, vous avez parfaitement raison, d'ailleurs, etc., etc. Et là, donc silence, et le cardinal va dire ces mots, qui me sont restés un peu comme la pépite de ce jour-là. Il a dit, vous savez, mes frères, le catholique n'est pas un professeur. C'est un témoin. Ben voilà. En quelques mots, il a tout dit. C'est-à-dire que nous ne professons pas une somme de connaissances. Nous essayons de rendre compte dans notre vie de foi de la rencontre avec quelqu'un. Alors évidemment, ça, c'est difficile parce que quelquefois une rencontre, on a du mal à justement à en donner les mots. Enfin voilà, il y a toujours des contours qui sont un peu flous. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ça qu'il faut viser. Voilà. Je ne vais pas vous apporter, je ne vais pas vraiment répondre à la question au cours de ce parcours, de savoir comment fonctionne exactement la circumcision divine. Ça serait un petit peu, vous voyez, un petit peu audacieux et certainement pas à ma portée. Mais par contre, nous allons pouvoir rencontrer des témoins. Les premiers témoins sont ceux, donc, sont les amis directs de Jésus, hein, ceux qui ont côtoyé Jésus. Il y a ceux qui ont enquêté, les évangélistes, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, eh bien, nous pouvons réellement le dire, nous sommes des témoins. Vous voyez, ça a été annoncé hier, il y a un homme de 62 ans en Égypte, je crois que c'est en Égypte, enfin, je ne sais plus exactement, peu importe, mais qui a été assassiné par Daesh. Et il a été assassiné parce que chrétien. Eh bien, cet homme-là, au lieu de renier sa foi, il a témoigné jusqu'au bout de son amour pour Jésus. Il a rendu témoignage, et en grec, vous le savez, hein, le témoin, c'est le martyr. Voilà. Donc les martyrs, ce ne sont pas autre chose que des témoins. Eh bien, nous sommes appelés à être des témoins, alors pas forcément martyrisés, mais à être vraiment ceux qui rendent témoignage, qui racontent un petit peu leur rencontre avec le Seigneur. Et évidemment, pour ça, c'est le préalable, eh bien, il faut rencontrer le Seigneur. Et pour rencontrer le Seigneur, eh bien, il faut lui demander, il faut l'inviter. Et celui qui nous permet de faire entrer Dieu dans notre vie, c'est l'Esprit-Saint. Donc c'est très concret. Voilà.
Alors vous nous invitez là, vous nous l'avez dit, à être des témoins, à avoir une responsabilité, donc à être acteur et non pas consommateur. Mais comment vivre justement les dons de l'Esprit-Saint ?
Aha !
Comment on les découvre ? Comment
Aha ! Eh bien, écoutez, j'espère que c'est cette grande attente qui porte la demande de tous ceux qui nous écoutent, parce que c'est évidemment ce à quoi je vais tâcher de répondre pauvrement, mais résolument. Alors, j'aimerais commencer avec un texte du Livre des Nombres. Alors, le Livre des Nombres dans la Bible, Ancien Testament, on l'ouvre pas tous les jours. Et pourtant, au chapitre 11, eh bien, donc versets 25 à 29, il y a ces quelques mots qui retracent un passage tout à fait étonnant et dont j'aimerais que chacun soit convaincu, eh bien, qu'il est parfaitement actuel. Alors je vous lis simplement ce passage donc, du Livre des Nombres. En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, deux hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse « Eldad et Médad prophétisent dans le camp !» Josué, fils de Noun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. « Moïse, mon maître, arrête-les !» Mais Moïse lui dit « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. » Voilà un passage hautement prophétique de Moïse qui vient rendre compte en fait des intentions les plus profondes du Seigneur. Que si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux, et même sur ceux qui ne s'y attendent pas. Hein, ce qui est génial dans cette histoire, c'est que Eldad et Médad, en gros, ils sont en dehors du match. Ils n'ont rien à voir avec l'espèce de Pentecôte qui se déroule dans la tente. Ils n'ont pas été dans la tente et ils sont aussi touchés par la grâce de l'Esprit Saint. Ils se mettent à prophétiser, c'est-à-dire ils se mettent à... Alors, on va commencer à aborder des thèmes hein, qui sont des thèmes qui vont habiter tout ce parcours. La prophétie, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça va être témoigner d'une parole ou d'un geste ou de poser un geste qui dépasse la connaissance que la personne en a et qui manifeste que ça vient de Dieu parce que la personne ne pouvait pas par elle-même avoir telle ou telle information, elle ne pouvait pas comprendre que le geste qu'elle pose eh bien, va avoir une importance si extraordinaire. Et d'ailleurs, dans l'écriture, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a plein de Eldad et Médad, c'est-à-dire que vous avez plein de gens qui, selon les critères ecclésiaux, enfin, on dirait ecclésiaux aujourd'hui, selon les critères religieux, sont complètement en dehors de l'affaire, en dehors du match, et pourtant c'est eux, c'est à par eux que le Seigneur va passer pour toucher les cœurs. Pensez par exemple à, comment il s'appelle, le général syrien, Naaman, qui va être guéri grâce à une de ses servantes. C'est sa servante qui dit bah, « Moi, je crois que j'ai entendu parler en Israël, il y a un prophète, etc. » Et finalement, Naaman va aller voir le prophète. Le prophète va lui dire, va lui donner quelque chose de très simple pour être guéri de sa lèpre. Il lui dit « T'as qu'à te baigner cette fois dans le Jourdain. » Et Naaman se met en colère en disant « Mais c'est n'importe quoi. On a des fleuves chez nous, en Syrie, on a des fleuves bien plus beaux que le Jourdain, ce misérable Jourdain. Qu'est-ce que je... Voilà, je peux faire la même chose là-bas. » Et il y a un de ses serviteurs, là aussi, donc quelqu'un qui est extérieur au match, hein, si on peut dire, qui n'est pas le prophète qui lui parle, qui dit à ce général syrien « Mais tu sais, général, si le prophète t'avait demandé un truc super compliqué, tu l'aurais fait. Il te demande un truc super simple, bah vas-y, fais-le. » Et de fait, il va le faire, il va être guéri. Voilà. Donc, il y a dans ce texte des Nombres que j'ai choisi, qui est le premier texte de l'Écriture que j'ai choisi pour illustrer ce parcours, eh bien, la certitude que d'abord le Seigneur peut toucher tous les cœurs, et même les plus inattendus, et ensuite qu'il désire vraiment faire de nous un peuple de prophètes sur lequel eh bien, il va mettre son esprit. Et donc, il ne faut pas avoir peur d'être très audacieux dans notre foi catholique. Voilà, on n'est pas là pour attendre des pichenettes du Seigneur, on est là pour attendre des choses extraordinaires, des miracles, des choses qui ne peuvent pas arriver par nous-mêmes. Et vraiment, j'aimerais que tout le monde en soit absolument convaincu. Les miracles de la Bible ne sont pas réservés à des gens exceptionnels qui sont les gens de la Bible. Ils sont donnés pour tous et ils peuvent se vivre maintenant. Et j'espère que je vous en donnerai de très bons exemples.
Nous en sommes persuadés. Alors, vous nous invitez, si j'en crois ce que vous dites, à être des Eldad, des Médad, nous aussi, chacun à notre place. Mais j'imagine nos auditeurs qui se disent, oui, ben, excusez-moi l'expression, c'est monsieur le curé qui parle. Lui, il sait et nous, on ne sait pas.
Alors, monsieur le curé, il ne sait pas forcément, parce que monsieur le curé, il rencontre des tas de gens qui savent beaucoup mieux que lui. Donc, je vous ai dit, hein, pourquoi est-ce qu'on parle d'un parcours et pourquoi j'ai fait une école des charismes ? C'est parce que nous avons vraiment besoin à nous mettre à l'écoute, à l'école, les uns des autres. Vous savez, saint Paul a cette magnifique description du peuple de Dieu. Il dit, le peuple de Dieu, l'Église, c'est comme un corps. La tête, c'est le Christ, mais nous, on est les membres du corps. Et d'ailleurs, dans ce corps, de la même manière que le corps humain, les parties les plus honteuses ou les plus fragiles, eh bien, on va montrer beaucoup de délicatesse pour elles, et on va les cacher par pudeur. Eh bien, de la même manière, dans le corps de l'Église, il y a des membres qui sont des membres fragiles, souffrants, etc., etc. Mais chacun est un membre de ce corps. Et donc, si chacun est un membre de ce corps, eh bien, vous voyez, il y a une certaine fierté à appartenir au corps de Jésus-Christ. Et au nom du Christ Sauveur auquel nous appartenons depuis notre baptême, eh bien, nous sommes fondés à demander des choses qui ne sont pas à notre portée. Vous voyez, donc il y a une certaine audace à avoir. J'allais dire, c'en est fini d'être poli et bien élevé dans notre foi. Hein, la foi polie et bien élevée, ça a fait son temps, mais aujourd'hui, on ferme des tas d'églises où il y avait des gens remplis, où c'était rempli de gens polis et bien élevés. Non, aujourd'hui, voilà, le Seigneur désire faire de nous des prophètes. Et j'espère que si vous m'entendez derrière votre poste, eh bien, j'espère que ça vous choque. Parce que, justement, c'est comme un électrochoc. Je suis en train de vous dire, parce que je lis avec vous l'Écriture, que le Seigneur veut faire des choses énormes, immenses, par vous. Par vous, et pas parce que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, etc., mais simplement parce que vous êtes membre du corps du Christ. Et il faut que vous soyez convaincus de ça. Vous voyez, on racontait cette histoire, tenez, c'est tellement beau dans l'histoire de France, on est donc avec, je crois que c'est Charles VII, du temps de Jeanne d'Arc. Charles VII a un grand... il porte un traumatisme très profond, parce que sa maman lui a fait croire qu'il n'était pas légitime. Et donc, vous imaginez un enfant à qui on dit, bon, en gros, je vais te dire un truc, ton père, c'est pas ton père. Voilà. Et donc, on a un homme miné de l'intérieur, qui peut rien faire. Et d'ailleurs, on voit bien, quoique roi de France, il est rien. Enfin, il n'est pas encore roi de France, d'ailleurs, mais il est rien. Et il n'est pas sacré, en tout cas. Et vous savez, vous connaissez, donc là, on va reparler, parce que ce personnage, qui est, vous voyez, c'est un personnage historique. Je ne vous parle pas d'une histoire qu'on aurait pu raconter. Donc, cette petite bergère, Jeanne d'Arc, va être conduite par l'Esprit-Saint. Elle va avoir ce qu'elle appelle des voix. Hein. Elle va faire une expérience de Dieu qui va s'exprimer sous la forme de saints, etc. Et elle va aller voir Charles VII. Et donc la rencontre se passe, je crois, à Chinon. Et là, c'est génial. Parce que, en fait, l'histoire de notre pays va reposer sur un événement tout petit, mais qui va être déterminant. Qu'est-ce qui se passe ? Et je terminerai par cette anecdote pour vous dire que, voilà, l'Esprit-Saint peut vraiment tout. Vous savez que Charles VII, pour ne pas être abusé par quelqu'un qu'on pourrait prendre pour une fada, va se déguiser. Il va se déguiser en page. Il va faire croire, il va mettre quelqu'un déguisé en roi, et lui, il se déguise en page. Et première motion de l'Esprit-Saint dans le cœur de Sainte Jeanne d'Arc, évidemment, vers qui elle va quand elle rentre dans la salle avec plein de monde, elle va directement vers le roi qui est déguisé en page. Vous voyez, l'Esprit-Saint lui dit, c'est lui. OK. Et là, la chose la plus extraordinaire qui soit, Sainte Jeanne d'Arc va murmurer quelque chose à l'oreille du roi. Et à ce moment-là, l'histoire de France bascule, parce que c'est à ce moment-là que Charles VII va comprendre qu'il faut qu'il aille être sacré, qu'il va faire confiance à Jeanne d'Arc, qu'il va lui donner la tête de l'hoste royal. Et l'histoire de notre pays va être complètement changée grâce à cette petite parole dite par Jeanne d'Arc dans l'oreille du roi. Elle n'a pas raconté sa vie dans l'oreille du roi. Elle a simplement dit au roi ce que Dieu voulait qu'elle dise. Vous voyez, c'est une parole prophétique qu'on ignore qui a changé la face de notre pays. C'est merveilleux, et vous voyez, c'est très concret. L'Esprit Saint est capable d'accomplir des merveilles dans notre vie. Je veux que tout le monde en soit convaincu.
Merci à vous pour cette rencontre d'aujourd'hui où on découvre comment ce mystère, il n'est pas réservé aux autres, ni aux seules personnes qui seraient consacrées, ordonnées, mais que chacun d'entre nous est invité à vivre l'expérience dont vous parliez au début de l'émission. On vous retrouve prochainement pour continuer ce parcours avec vous. En tout cas, encore merci.
Je vous en prie. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Visage d'église. Une émission qui vous a été présentée par Pascal Bahut sur Radio Présence dans le Lot. Visage d'église. Une émission qui vous a été présentée par Pascal Bahut sur Radio Présence dans le Lot.